Comme il a déjà été annoncé ce matin, je voudrais partager avec vous la manière dont Christ, qu'on a vu, hein, il va y avoir des petits rappels aujourd'hui de ce qu'on a déjà vu. Et on va voir comment Christ est un roi atypique, un roi qui est différent des rois que nous pouvons connaître et que Israël avait connus. Parce que aujourd'hui, on a tous des objectifs. Aujourd'hui, on peut avoir des objectifs partout, dans la vie, dans l'école, dans la vie maritale, dans la vie de célibataire, même, j'allais dire, en vacances. On a tous un but, on a tous un objectif, on a tous une volonté de faire des choses. On veut atteindre quelque chose. Et on a vu que Jésus aussi avait un but à atteindre. Jésus aussi avait un objectif. C'était un roi, mais avec un objectif. Et un objectif très particulier. Il nous est dit qu'il avait un objectif particulier parce qu'il voulait, et il le dit dans Marc 1, 13 à 14, hein, ça c'est les rappels. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ça c'est ce qu'on a vu ensemble déjà. Voilà, c'était son objectif. L'objectif de prêcher le royaume, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle, une bonne nouvelle qui s'inscrit dans une histoire d'une révélation. On l'avait vu, on le rappelle, hein, ça c'est ce que Josué nous avait déjà partagé, que Jésus c'est un roi qui possède l'autorité sur les hommes, qui possède l'autorité dans son enseignement, qui possède l'autorité sur les puissances démoniaques et qui possède l'autorité sur les maladies. Ça c'est un rappel de ce qu'on a vu, hein. Un rappel de ce qu'on a vu, c'est cette autorité absolue de Jésus et qui a bouleversé les gens qui l'écoutaient, les gens qui l'entendaient. Hein. Je vous renvoie, j'allais dire, aux semaines d'avant pour plus de détails, mais on a besoin de ça pour ce matin, pour poursuivre en quoi ce roi, dans toute sa puissance, dans toute son autorité, dans toute sa royauté, dans tout ce qu'il est, on va voir à quel point il va être différent. Et c'est pour ça que je prends avec vous donc la parole ce matin, donc Marc, versets 35 à 45. Je vais lire dans la version second. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, c'est Jésus, et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils l'eurent trouvé, ils dirent « Tous te cherchent !» Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée. Et il chassa les démons. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit, d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit sa main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta, et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et il lui dit « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Voilà, jusque-là. Donc on a vu, hein, c'est un roi qui possède toute cette autorité, un roi avec un but. Hein. Et le but, c'est d'aller, il le dit tout au départ, hein, alors je remets le contexte, hein, le contexte c'est que Jésus a guéri déjà, il a guéri des malades, hein, on l'a vu dans le verset 29, il a été allé à la synagogue, il a guéri la fièvre de la maman, de la femme de Simon, donc la belle-mère de Simon. Et il y a une effervescence dans ces villages. Il y a quelque chose qui est différent. Cette renommée, elle grandit, hein, elle est dit au verset 28, et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Mais Jésus, on voit, il quitte un peu l'endroit où il devait y avoir plusieurs personnes, hein, et il fait très sombre, donc on suppose que c'est le matin. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il va dans un lieu désert. Et il va prier. Il s'isole. Et après, on le cherche. Les gens se réveillent, Jésus a disparu, tiens, où il est, elle et ses proches, ses disciples vont se mettre à sa recherche, et ils savent pas où il est, ils s'éloignent peut-être visiblement du tour où ils sont, puis il leur dit, mais allons tous te chercher. Quelque part, ils sont étonnés. Ils disent, pourquoi Jésus est parti? Tous te cherchent, tous te cherchent. Mais on n'imagine pas, nous, parce qu'effectivement, on va le lire, mais ça devait être Jésus, devait se démarquer, parce qu'on l'a dit hein, déjà, Josué l'avait déjà dit, c'était une sécheresse spirituelle depuis 400 années. Quand le ciel s'est déchiré, c'était quelque chose de nouveau. Il y avait toute cette espérance d'Israël, beaucoup de personnes avaient cette espérance. Jésus, c'est l'espérance qu'on attendait. C'est quelqu'un qui est différent. C'est quelqu'un qui avait toute cette autorité dont on a vu. Et au lieu de rester là, à se faire, j'allais dire, un public, il s'en va, il va prier, et tous le cherchent. Et qu'est-ce qu'il va dire? Quand tous ils l'ont sorti, tous le cherchent, il leur répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée. Pierre, enfin Simon, il va chercher Jésus, hein, comme on l'a vu. Et ils sont un peu les porte-paroles, on va supposer qu'ils sont les porte-paroles de tous ceux qui cherchaient Jésus. Et vous qui le connaissez, allez le trouver. Tous te cherchent. Et pourquoi le cherchaient-ils? Parce que c'est quelqu'un qui avait fait preuve de cette autorité, quelqu'un qui avait aussi guéri, quelqu'un qui avait parlé de manière incroyable. Il parlait avec cette autorité, en verset 22, il nous a rappelé, ils étaient frappés par sa doctrine, car il enseignait non comme ayant autorité, et non par les scribes, comme par les scribes. Il avait cette autorité absolue, comme nous a souligné Josué. C'est que généralement, dans le milieu du judaïsme de l'époque, enfin des judaïsmes de l'époque, on parlait au nom d'un maître qui nous avait précédé. On dit « un tel a dit que ». Mais Jésus parlait de sa propre autorité. « Je dis que ». Matthieu le soulignera plus. « Il vous a été dit, moi je vous dis ». Il parle de cette autorité qui est absolue. Et Marc montre que certains cherchaient peut-être Jésus pour être guéris. D'autres cherchaient Jésus pour chasser un démon. On cherchait tous Jésus pour des manières différentes, pour des raisons différentes. Mais ils veulent l'avoir avec eux. Ils veulent aller le chercher. Mais Jésus était en train de prier au loin. Jésus est un roi avec toute cette puissance, mais qui ne va pas rechercher la gloire. Il ne va pas s'asseoir en disant « Voilà, j'ai prêché, j'ai guéri, maintenant venez à moi, je vais m'installer. » Il aurait pu, il aurait même pu fonder une école. On l'aurait suivi. Peut-être pas tout le temps, peut-être pas tous, mais il aurait pu le faire. Il aurait pu dire, maintenant, je m'installe, les gens qui ont envie de venir viendront, ceux qui n'ont pas envie de venir viennent pas, je m'installe ici. Non. Il va changer encore la conception qu'on peut avoir de lui. Jésus, son appel, il est universel, par la suite, mais déjà, il est territorial. Et c'est pour ça qu'il va dire, il va faire cette réponse incroyable, on va partir. Il y a toute une population qui est là, qui est prête à l'écouter, mais il dit, non, allons ailleurs. Dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Et il va souligner son but. Il va souligner son but. Car c'est pour cela que je suis sorti. C'est la fin du verset 38. Il annonce que sa venue, son incarnation, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Alors c'est pas surprenant, hein, parce que Marc nous l'annonçait déjà, hein, l'annonce de la bonne nouvelle au verset 14. Hein, 14 et 15, ça a été les versets centraux des premières parties. C'est l'annonce de la bonne nouvelle. Jésus s'est incarné pour annoncer cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume, donc c'est la bonne nouvelle de la vie éternelle, la bonne nouvelle d'un royaume qui est saint, qui vient, qui fait irruption dans le monde, et un royaume dont il est le roi. Et c'est pour ça qu'il est venu. Jésus n'est pas un roi comme les autres, il va pas s'arrêter, il va pas se reposer, il va pas chercher la gloire pour son propre nom. Il va pas chercher des pouvoirs. Vous savez, des fois, quand on a un homme a des pouvoirs, on a vite fait de le corrompre. Et il y a une phrase célèbre qui dit « Le pouvoir corrompt et le pouvoir total corrompt totalement. » Mais Jésus, non, malgré toute cette autorité, malgré tout le pouvoir, il va rester à l'écoute du Père, c'est-à-dire marcher dans ce but qui s'était fixé, annoncer la bonne nouvelle. Et il va pas du tout utiliser ses pouvoirs pour, j'allais dire, se faire mousser, faire de lui un roi. Et d'ailleurs, dans les évangiles, à chaque fois qu'on veut le faire roi, il s'échappe. Parce que c'est pas le moment. Il n'est pas venu encore pour ça. Jésus est un roi différent de tout ce qu'on pouvait connaître des rois. Il ne va pas s'installer dans un beau palais, il ne va pas utiliser sa puissance pour lui-même, mais simplement répandre la bonne nouvelle qui s'accompagne aussi des guérisons, qui s'accompagne aussi des prédications qu'il devait faire avec toute cette autorité. Jésus est un roi différent parce que c'est pas un roi qui va chercher à centrer sur lui, mais qui va accomplir le but envoyé, enfin le but de pourquoi il est envoyé, c'est-à-dire c'est pour ça que je suis sorti. Donc Jésus est un roi qui diffère, il répondit, allons dans d'autres bourgades voisines, parce que c'est là qu'il doit aller parler. Donc c'est là ce qu'il va faire, hein, la Galilée, c'est ce qu'on a vu au-dessus, et j'ai fait un zoom. Donc il va déjà aller prêcher en Galilée. Il va déjà commencer, il a commencé au bord du lac, et il va aller prêcher dans toute la Galilée, pour après par la suite aller prêcher dans tout Israël. C'est un roi qui se met au service. C'est pourquoi que j'aime beaucoup le chant qu'on a chanté, c'est un roi qui est serviteur. Un roi serviteur, ça existe que dans la Bible. Il va se mettre en route pour la Galilée pour y annoncer la bonne nouvelle et Marc souligne deux des autorités qu'on voit. Il va prêcher dans les synagogues et il va chasser des démons. On peut aussi supposer qu'il a guéri. Donc il va utiliser toute l'autorité que Marc a déjà développée avec ses doctrines frappantes, avec l'autorité sur les maladies, sur les démons. Donc c'est qu'il a autorité sur le prince de ce monde qui est Satan. Mais il va la partager, il va l'annoncer, il va parler de ce pourquoi il est venu. Et pourquoi on le cherche? Ça, c'est la question à laquelle je me suis posé et que Marc ne répond pas. Tous te cherchent. Pourquoi cherchait-il Jésus? Or, chacun répondra à sa manière. Mais Jésus est quelqu'un qui n'a pas laissé indifférent. Alors, pas toujours pour les bonnes manières, mais Jésus ne laisse pas indifférent. Sa rencontre ne laisse pas les cœurs indifférents. Tous te cherchent. Certains, c'était peut-être pour le confronter, d'autres, c'était pour utiliser ses pouvoirs, mais d'autres, c'était peut-être pour l'entendre, pour dire qu'est-ce qu'il a à nous dire. Vous savez, les évangiles montrent souvent que Jésus va entrer en conflit avec certaines autorités du peuple, parce que Jésus ne laisse pas indifférent. Jésus va choquer dans sa manière d'annoncer, il va choquer dans le sens, il va surprendre dans la manière dont il va parler. Il va pas laisser les gens indifférents. C'est un roi différent, mais qui ne laisse pas indifférent. Et tous le cherchent. Sa renommée grandit d'elle-même, pas parce qu'il la provoque, c'est parce qu'il est que les gens ont envie de le voir. Alors tous ne vont pas le suivre, et Jésus est assez lucide sur certains qui le cherchent, il connaît leur cœur, hein. Plus loin dans les évangiles on nous apprend ça, il ne se fie pas parfois aux louanges qu'on peut lui donner parce qu'il connaît le cœur, mais en tout cas on le cherche. Et ce matin je dois nous interroger, est-ce que nous cherchons Jésus? Et si on le cherche, pourquoi? Je pense que c'est aussi des questions qu'on doit se reposer. Si nous sommes convertis, nous le savons, Jésus est notre Sauveur et Seigneur, mais est-ce que je le cherche dans toute ma vie? Est-ce que je prends du temps pour parfois aller au désert pour prier? Et il y a un jeu de mots en hébreu avec désert et parole, parce que c'est les mêmes mots qui sont... C'est quasiment le même mot. C'est-à-dire c'est les mêmes lettres. On a juste fait un anagramme avec le mot désert et le mot parole. Les penseurs de la Bible disent « c'est dans le désert qu'on a la parole de Dieu ». C'est dans le désert que, lorsqu'on fait du vide, lorsqu'on est seul, face à face, où là, des fois, on peut recevoir. Et voilà pourquoi Jésus sortait. Souvent, il sort, il va dans une montagne, il va dans un lieu désert. Il va là où il peut entendre. Et tous le cherchent. Est-ce que nous le cherchons? Ça, c'est une question que je laisse. Est-ce que nous cherchons ce roi qui est différent? Et après, Jésus, c'est un roi pur qui purifie l'impur. Et ça, quand j'ai préparé le texte, hein, ça tombe comme ça. Vous savez, Marc, c'est pas quelqu'un qui fait des fioritures. Il nous retranscrit ce qu'il a appris de Pierre, et pour ceux qui connaissent un peu l'apôtre Pierre, c'est un homme d'action. Pierre, c'est quelqu'un, ça veut pas dire que c'est un mauvais théologien, attention, hein. C'est-à-dire que lui, il va dans l'action. Et le mot « aussitôt », il y est très souvent dans l'évangile de Marc, c'est « aussitôt ». Allez, on y va, on fait les choses. Jésus n'est pas statique. On n'a pas ce serment sur la montagne, par exemple, où Jésus va rester pendant 4 chapitres ou 3 chapitres et demi. Matthieu le faire rester quelque part. Non, chez Marc, ça bouge, parce que c'est Pierre qui raconte, et Pierre, c'est, il est dans l'action. Et là, d'un coup, on a ce lépreux qui arrive. Et Jésus, il part dans toute la Galilée, il dit, voilà, ça c'est mon but, il annonce son but. Puis d'un coup, verset 40, donc il est dans la Galilée, il prêche dans les synagogues, il chasse les démons. Verset 40, un lépreux vint à lui. Ça tombe comme ça. On ne sait pas où, on ne sait pas où c'était, on ne sait pas quand c'était, mais visiblement c'était pendant son voyage, dans toute la Galilée, un lépreux vient à lui et se jetant à genoux lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Donc ce qu'on peut supposer, hein, c'est que ce lépreux connaissait Jésus. Il connaissait Jésus parce qu'il savait qui il était et il devait le connaître au moins de cette renommée qui le suivait. Il connaissait Jésus, il est venu. Il est venu le voir. Donc c'est un zoom. Et si c'est un zoom sur une rencontre, c'est que ça veut nous apprendre quelque chose. Vous savez, la Bible, elle est construite de manière intelligente et les gens n'ont pas fait les choses à la va-vite, à la légère. Si Marc s'arrête sur cette rencontre, c'est que c'est précisément quelque chose qui veut nous souligner. Il veut nous dire, il y a quelque chose dans cette rencontre. On est dans la Galilée, on ne sait pas où c'est. Jésus accomplit le but de pourquoi il est sorti, annoncer le royaume. On a vu hein, l'irruption de ce royaume de Dieu sur terre, c'est incroyable. On avait de quoi se réjouir hein, les dimanches précédents, on avait vu, aujourd'hui aussi, mais on avait vu l'incroyable grâce de Dieu qui s'incarne son Fils dans un homme pour qu'on puisse, nous, avoir accès à son royaume. Et c'est un contexte important que je voudrais souligner là, c'est le contexte de la lèpre. Alors certains le savent, d'autres peut-être moins, la lèpre c'est une maladie qui était horrible et qui défigurait les personnes et qui la rendait impure. La question de pureté en Israël, alors nous on ne comprend pas toujours, hein, parce qu'on n'est pas du tout dans cette vision, mais en Israël, à l'époque de Jésus, la lèpre était une maladie socialement isolante. Quelqu'un qui avait la lèpre ou des pertes de sang, tout ce qui était en rapport avec le sang ou les maladies de peau, c'était exclu de la vie, du village, de la ville où on était, de la famille, du clan. On était condamné à vivre isolé, avec les lépreux, ensemble, tous ensemble. Et ces personnes étaient tellement, j'allais dire, déjà malades, parce qu'on ne pouvait pas la guérir. Elles étaient parias, rejetées de tous, mais en plus physiquement, c'était horrible, mais moralement et mentalement, parce qu'ils devaient crier « impur ». Si jamais ils devaient bouger d'un endroit à un autre, si quelqu'un arrivait au loin, ils devaient crier qu'ils étaient impurs. Ou avoir des clochettes, ou avoir quelque chose qui les rendait intouchables. Et les gens faisaient des détours pour pas les toucher. Alors si on était un homme du peuple, on faisait un petit détour. Si on était un pharisien, on faisait 80 mètres. Ça dépend de la pureté de la personne. Ou de son idéal de pureté. Mais c'était impur. C'était marqué comme quelque chose d'impur. Et si quelqu'un s'approchait trop d'un lépreux, il devenait impur. S'il était trop près, il devenait impur. Il devait se purifier là aussi, pendant 7 jours. Et puis après, regarder si c'est bien. S'il est pas malade, il devait encore attendre 7 jours. Et s'il est pas malade, il devait faire les sacrifices. Et après seulement revenir dans la vie. Alors que lui-même n'avait été peut-être que trop près d'un lépreux. Donc voilà, c'est pourquoi c'est important. Hein, pourquoi on fait ce contexte important. Parce que c'est des personnes que personne n'approchait. C'était des gens qui étaient isolés, des gens qu'on laissait pour compte. On disait, c'est ces personnes-là, elles sont, des fois on disait même, elles sont punies, parce qu'on associait des fois la lèpre à une punition de Dieu, comme la lèpre qui avait touché Myriam et Aaron lorsqu'ils ont critiqué Moïse. Ce qui n'est pas le cas, mais on faisait des fois ces associations d'idées. Donc la lèpre, c'était vraiment quelque chose qui était un fléau pour le malade, parce qu'en plus, il n'était même pas soigné. Donc il avait des fois plus qu'à attendre la mort, une mort horrible. Le seul est laissé pour compte. Et quand on voit, donc on imagine, hein, les lépreux sont conditionnés à agir de cette manière. Quelqu'un qui devient lépreux, il sait qu'il va être comme ça. Et d'ailleurs, ce n'était pas que en Israël, hein, parce que dans l'histoire de Naaman, hein, on voit aussi que ce haut général syrien qui commence à avoir la lèpre, il a peur. Parce qu'il sait qu'il va finir tout seul dans son coin. Parce que même dans les pays autour, même s'il n'y avait pas que la pureté, il y avait le problème de la contagion. Donc voilà, hein, on sait maintenant, dans Israël, les lépreux devaient se comporter comme ça. Et là, Marc, il prend tout le monde de revers. C'est incroyable. Un lépreux vint à Jésus. Ben, il n'avait pas le droit, en fait. Ça, c'est choquant. Quand on lit ça, nous, aujourd'hui, c'est qu'un verset, mais le lépreux n'avait pas le droit d'approcher quelqu'un de pur. Et Jésus était sûrement peut-être pas tout seul sur le chemin. Mais ce lépreux a pris sur lui de non seulement de s'approcher des personnes dont il n'a pas le droit de s'approcher vu que toutes les autres personnes sont pures et pas lui, et il n'a même pas annoncé qu'il était impur, enfin si, en le jetant à genoux, mais il a cette conviction. Il a cette conviction que cette rencontre va le changer. Il a cette conviction de sa maladie, parce que c'est ce qu'il dit, hein. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Donc il est conscient. Il est conscient de son impureté. Il est conscient que Jésus, c'est son seul salut. Il est conscient que la personne qu'il a en face de lui, c'est quelqu'un qui peut l'aider. Quelqu'un qui peut le guérir. Il vient supplier à genoux. Vous savez que d'autres rabbins que Jésus, même des rabbins itinérants qui existaient à l'époque, ils l'auraient renvoyé. Ils seraient partis de l'autre sens, en courant, peut-être en hurlant, ou en balançant peut-être quelque chose. Mais Jésus agit d'une manière remarquablement incroyable, et pas du tout dans l'air du temps. Parce que comme pour la fièvre qu'on a vue de la belle-mère de Simon, Jésus il est ému de compassion. C'est quelque chose qui va le toucher. Et je notais que la compassion, c'est souffrir avec. Dans la compassion, il n'y a pas de pitié dans la compassion. C'est vraiment souffrir avec quelqu'un. C'est-à-dire, on imagine sa souffrance et on se retrouve nous-mêmes en train de souffrir de ce qu'il est en train de vivre. C'est vraiment quelque chose que Jésus porte sur lui. Il voit cette souffrance et plusieurs fois dans la Bible, on est interpellé par cette humanité de Jésus. Jésus n'est pas insensible. Il n'est pas celui qui dit « Ouais, t'es malade, m'approche pas. C'est pas grave, tant pis pour toi. » Ou « T'es malade, attends, je vais te donner l'adresse d'un bon médecin. » Non, il souffre avec cette personne. Cette personne qui est en train de transgresser la loi. Elle n'a pas le droit d'être là. Mais au lieu de lui dire ça, au lieu de tomber dans un légalisme, au lieu de tomber dans une rigueur de la loi de Moïse, et pourtant, la loi de Moïse, on voit qu'il la respecte, mais c'est la loi de l'amour, la loi de la compassion. Jésus est ému de compassion, nous dit le texte. Et qu'est-ce qu'il va faire? Comme nous l'avait aussi signalé la semaine dernière, l'action du toucher chez Marc, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi. Jésus est un homme d'action, mais pas l'action lointaine et froide. Il touche cette personne. Et avec tout ce qu'on vient de voir, il était interdit de toucher un lépreux. Parce qu'en touchant un lépreux, ou même quelque chose qui lui avait appartenu, on devenait nous-mêmes impurs. Nous-mêmes, on était condamnés par la loi à être impurs et à être du coup exclus de la communauté jusqu'à ce qu'on vérifie si tout va bien. Et Jésus prend tout le monde à contre-courant. Je pense que les gens qui devaient le suivre, ça a dû aussi les choquer. Marc ne le précise pas. Mais cet homme vient lépreux. Il dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit sa main, le toucha. Elle lui dit, je le veux, sois pur. Et là, on a quelque chose d'incroyable, mais quelque chose, de normal pour nous qui lisons la Bible aujourd'hui au XXIe siècle, mais d'incroyable pour ceux qui ont dû vivre, c'est qu'aussitôt, la lèpre la quitte. C'est la même chose que pour la maladie. Quand la maladie est aussitôt, Vous voyez, c'est l'action. La lèpre, elle n'a pas attendu. Il n'y a pas eu une guérison. C'est comme pour la belle-mère de Simon. Elle s'est levée, elle les a servis. Il n'y avait pas un moment où il fallait se remettre de cette maladie. Non, c'est une guérison qui est totale et complète et qui est incroyable. Et c'est incroyable parce que c'est tout de suite et loin de vouloir faire autre chose que de respecter la loi, la bonne loi de Moïse, que Dieu a donné à Moïse, et lui dit, va au temple maintenant, va te montrer, va faire tout ce que la loi te demande. Parce que c'est aussi ça, il n'est pas venu, comme il le dira lui-même, il n'est pas venu détruire la loi, mais il est venu l'accomplir. C'est-à-dire que Jésus, en fait, c'est celui qui incarne ce qu'aurait dû être la loi. Et ça, ce qui est incroyable, c'est que Jésus est pur, et cette pureté l'emporte sur l'impureté. Et pourquoi Marc nous fait un zoom? Parce que la lèpre ben, c'est comme la lèpre qu'on a aussi du cœur. C'est en écho avec ce que va faire Jésus de manière plus incroyable à pardonner les péchés. Vous savez, les péchés, c'est l'impureté totale. Ou de la lèpre, c'est une impureté de peau. On peut soigner, on peut quand même espérer de s'en sortir, alors que le péché, c'est l'impureté du cœur. Et là, il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Et la pureté, et la puissance et l'autorité de Jésus que présente Marc amène à la guérison de cette lèpre. Et en filigrane, il dit la lèpre, ça sera comme les péchés. Ça va être une guérison, il y aura un toucher, il y aura quelque chose pour purifier l'impur. C'est un exemple type de guérison de l'impureté. Et Jésus va montrer à quel point cette impureté du cœur, il va être capable, lui. Il va être capable de la prendre sur lui. C'est quelques versets, on voit. Pour nous, c'est une dizaine de versets, là, ce matin. Mais on voit l'impact que ça a eu dans la vie de ces personnes. Et quand on contextualise la foi que portait aussi ce lépreux. Une foi désespérée. En sens, cet homme peut me sauver. Si lui ne le fait pas, moi, je suis mort. Et ça recoupe la foi du pécheur. On est tous venus, en tout cas, j'espère, un jour ou l'autre, au pied de Jésus. En disant, je suis impur, pas de la lèpre. Socialement, je suis pas exclu. Mais je suis exclu du royaume que t'annonces. Je suis exclu de ce royaume. Parce que mes péchés m'empêchent de vivre dans ce royaume. Parce que le moindre de mes péchés va m'empêcher de vivre. Alors on est tombé à genoux, et je l'espère, en disant, Jésus, tu peux me rendre pur. Et pas un seul n'a été rejeté. Jésus n'a pas rejeté les gens. Il n'a pas regardé notre souillure, qui est pire que la lèpre. Le péché, c'est pire que la lèpre pour Jésus. Mais il nous a touchés, il a dit, je veux te rendre pur. Et il a payé ce prix à la croix. Et c'est pourquoi c'est déjà une préfiguration de ce que va faire Jésus de manière universelle, de la guérison de cette impureté. La question de pureté et d'impureté, pour nous, on en est un peu loin aujourd'hui. Mais c'était essentiel dans les judaïsmes de l'époque de Jésus. Cette pureté, on voulait vivre dans la pureté pour être près de Dieu. Et ça, Jésus l'a jamais dit le contraire. Il n'a jamais empêché la pureté. Il a juste, des fois, critiqué qu'on veut être propre à l'extérieur et l'intérieur n'est jamais nettoyé. Et lui, il vient proposer cette solution. C'est pour ça que c'est un roi qui est plein de compassion. C'est un roi qui vient nous toucher. C'est un roi qui vient nous purifier. Et son toucher se fait pas dans la violence. Il n'est pas dans la violence à le pousser. Il est là dans le toucher. On imagine un toucher comme un père peut toucher un enfant en disant « je le veux, sois pur ». Marc précise pas, mais on n'imagine pas une violence dans ses propos. On n'imagine pas quelque chose, on imagine quelque chose de doux, quelque chose d'amour. C'est la compassion qui l'anime. Et il dit « je le veux, sois pur, je le veux ». Et ça montre aussi ce but de Jésus. Jésus, il est venu avec un but, c'est de purifier l'impur. Et nous sommes tous impurs. Il n'y en a pas un qui peut dire, moi, j'ai pas besoin de Jésus, j'ai aucun péché. Parce que ça, c'est impossible. Autant on peut tous dire qu'on n'a pas la lèpre, en tout cas, j'espère. Autant on peut pas dire qu'on n'a pas de péché. Autant ça, on peut pas le dire, donc on a tous besoin de ce roi qui est venu guérir l'impur. Et c'est cette pureté, cette sainteté de Dieu face à l'impur. Et au lieu de devenir en jugeant, en disant, tu mérites ton sort, tu es pécheur, tu le mérites. Non, il est venu nous purifier. Il s'est approché de nous, pécheurs. Et c'est pourquoi j'espère que nous aussi, nous sommes venus. Nous sommes venus à genoux un jour. Rencontrer Jésus, où Jésus nous a rencontrés. Parce que Jésus savait que ce lépreux allait venir. Il est peut-être même passé par là exprès. Vous savez, plusieurs fois, il est dit dans d'autres évangiles, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, par exemple, ça c'est dans Marc 4, Jésus ne fait pas les choses de manière abstraite. Il y a toujours un but derrière. Et si c'est relaté dans Marc, si Marc relate ça, c'est pour montrer à quel point la question de pureté est essentielle pour rentrer dans un royaume qui vient, dont lui, il est le roi. Mais au lieu de nous laisser en dehors, de nous fermer la porte, il dit, moi, j'ai le pouvoir de vous purifier. Et Jésus, comme on dit, il va lui dire, va faire selon la loi de Moïse, va voir les responsables religieux. Mais cet homme, il va parler de tout le monde. Vous voyez, Jésus est de plus en plus connu. Et après, il ne peut plus rentrer. Jésus ne cherche pas forcément la gloire pour lui-même. Mais la manière dont il approche les personnes, la manière dont il impacte les vies, eh ben cet homme, il va crier à tout le monde. Il va dire, ouais, c'est Jésus qui m'a guéri. On ne sait pas comment il fait, mais en tout cas, il va le dire à tout le monde. Et sa renommée est de sorte qu'il ne peut même plus entrer dans les villes. Jésus est tellement attendu qu'il reste dans les lieux déserts, il se tient dehors et on vient le voir. Et ça fait écho à ce qu'on a vu tout au début. Tous te cherchent. Là, c'est pareil. Tous le cherchent. Tous veulent le voir. C'est un homme différent. C'est quelqu'un qui agit différemment. Rien que par cette guérison, quelque part, Marc annonce que ce roi qui est venu, que cet évangile qui fait éruption dans le monde, c'est pas pour le juger. Quelque part, il présente déjà là que Jésus a un but, c'est le salut. Que Jésus a un but, c'est le rachat. Que Jésus a un but, c'est la purification. Ça fait partie de son but. Alors bien sûr, c'est pas encore dit clairement, mais c'est déjà, dès le commencement de son ministère, Jésus annonce déjà ce pourquoi il est venu. Il est venu pour l'impureté. L'impureté au-delà de la lèpre, l'impureté au-delà des maladies, au-delà des démons, l'impureté du cœur qui a jamais été résolue si ce n'est par lui. Et c'est pourquoi ça dénote grandement par rapport à ce qu'il aurait pu être. Jésus aurait pu être autre chose. Hein. D'ailleurs, c'est ce que lui propose Satan dans la tentation. C'est pas le cas là. Dans Marc, on ne la voit pas, mais dans les autres évangiles, on le voit. Satan lui propose d'autres choses en disant « Utilise cette puissance pour toi ». Mais c'est quelque chose qu'il a toujours refusé. Par ce zoom, Marc nous montre un portrait atypique de Jésus roi. Il n'a pas marché comme les rabbis de son temps, ni comme les docteurs qui des fois sortaient pas de leur école, ou comme les personnes qui étaient responsables religieux, qui va dénoncer dans le bon samaritain. Alors c'est quelqu'un qui a été battu, mais c'est la même chose, c'est le sang et l'impureté. Dire, il dénonce le manque d'amour. Alors que lui, il est ému de compassion. Il va déranger par la manière, par cette autorité, mais par sa proximité. Il va pas se construire une tour en disant « moi je sais et venez apprendre ». Il va aller vers les personnes, et les personnes viennent vers lui. Elle les touche, elle les guérit. Tous te cherchent. Et comme le peuple et la foule, nous avons aussi besoin que Jésus nous touche, et nous purifie, et que nous annonce cette bonne nouvelle encore et encore au cours de notre vie, au cours de nos luttes, de nos faiblesses. Nous avons besoin de venir au pied de celui qui nous a guéris, de l'impureté dont nous étions. Jésus annonce la réalité de l'Écriture, il est la parole de la vie, il est la parole de celui qui sauve. Et Marc écrira par la suite, il veut détruire ce qui existe déjà, c'est ces pensées qui ont empêcher le cœur de l'homme de comprendre la loi de Moïse. Et qu'aujourd'hui encore, faut pas croire cet esprit de construire des théories et des théologies sur la Bible existe encore. Et Jésus, il vient balayer tout ça. Il dit, l'amour, la grâce, le pardon vont passer par moi. Et aujourd'hui, on peut pas rester prisonnier de ce que nous pensons croire. Mais Jésus est encore là pour briser ce que nous pensons croire et le voir tel qu'il est. Car ce péché dont il nous a guéri était un fléau. Pire que la lèpre. La lèpre nous isolait pour un temps. On pouvait vivre une manière difficile, mais le péché nous éloigne du royaume. Alors que retenir, hein? On peut retenir que Dieu a envoyé Jésus comme roi d'un royaume qui vient, qui s'installe, qui fait irruption. Hein? Ça, c'est ce qu'on avait vu. Hein? Un avant et un après. L'humanité n'est plus jamais la même. Jésus a bouleversé l'humanité. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, son enseignement a tout changé. Même les gens qui ne croient pas en Jésus se disent « Oui, on connaît Jésus-Christ, c'était un bel enseignant, un philosophe, peu importe ce qu'il était. » Certains vont dire « C'est un agitateur, chacun le récupère. » Mais en fait, non, il est roi d'un royaume. Et le royaume, on le voit pas encore, mais il existe déjà. Et Jésus dit « Moi, je suis sorti pour annoncer cette bonne nouvelle. C'est pour ça que je suis venu. Je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle et pour purifier. » Alors, tu es impur ce matin, n'hésite pas. Je suis impur, je n'hésite pas, je dis à genoux, je demande à Jésus. Et par la foi en ce qu'il a fait pour moi, je suis alors purifié. Et on connaît alors cette joie. Chacun d'entre vous, si vous êtes converti, je pourrais vous interroger de la joie ressentie du purifié. Ce lépreux était déjà très content d'être purifié de la lèpre. Imaginez-nous, on est purifié du péché. quelque chose qui nous interdisait l'entrée. Et cette joie, cette description de cette joie est un, je dirais, difficile, mais la joie de se savoir sauvé et gracié, que tout est grâce. Et hier encore, on le disait, la condamnation, c'est quelque chose de normal. Nous sommes condamnés parce que nous avons péché. C'est la grâce, c'est cette irruption dans le royaume, du royaume, dans la vie humaine qui est anormale. C'est quelque chose d'incroyable qu'on ne pourra pas comprendre encore aujourd'hui. C'est en fait, c'est Jésus-Christ, c'est la solution que Dieu a voulu nous donner, qui ça est anormal. Comme ce roi est anormal, il vient pas nous condamner, mais il est venu nous sauver, alors que nous méritions cette condamnation. Alors moi, voilà, je dis, waouh, quelle grâce, Seigneur, tu nous as fait. Et c'est pourquoi après, et on le verra par la suite, Jésus va tellement impacter son monde. Parce que de toutes parts, on venait le chercher. Mais il a été ému de compassion pour ce lépreux. Il est ému de compassion pour nos vies. Donc sachons aller vers lui et le reconnaître. Parce que c'est vraiment ce roi qui est différent.